Radio Bark, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Radio Bark, c'est le 22e pour cette 8e saison. Et pour cette première partie, j'annonce le docteur Jean-Pierre Courrèges. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour docteur. Alors, à la fois docteur et élu, on va revenir sur tout ceci, même si forcément, quand on est et médecin et élu, on est toujours un peu l'un, un peu l'autre, j'imagine.
Tout à fait.
Mais rappelons quand même, monsieur Courrèges, que vous avez fait carrière essentiellement au centre hospitalier de Narbonne.
Oui.
Vous étiez d'origine corse.
Non, je suis d'origine gasconne.
Gasconne, voilà.
C'est ma femme qui est d'origine corse.
Bon, en tout cas, vous êtes arrivé à Narbonne, je veux dire, vous n'étiez pas narbonnais de souche.
Non.
Hein, et vous êtes quand même resté, vous avez fait votre carrière, donc vous y avez trouvé un intérêt.
Absolument, tout à fait.
Alors, et au centre hospitalier, c'est-à-dire dans la médecine du secteur public,
j'insiste
bien là-dessus. Qu'est-ce qui vous a séduit, par exemple, dans un hôpital comme Narbonne?
En fait, je venais du milieu hospitalier parisien, puisque j'ai fait mes études à Paris. J'étais interne et chef de clinique de l'hôpital Beaujon, notamment, à Paris. Et c'est sur concours que je suis venu sur Narbonne, en sachant quand même que la région était aimable, que le centre hospitalier, à l'époque, n'était pas très développé, mais justement...
En quelle année vous arrivez,
monsieur? 79. Mmh. 79. Et le centre hospitalier n'est à l'époque pas très développé. Et c'est peut-être aussi ce qui m'a intéressé, c'est la possibilité d'un challenge de développement moderne d'un service, tout simplement. Et notamment d'un service de médecine interne à orientation diabétologique qui manquait cruellement, je dois le dire, sur la place de Narbonne, puisque les diabétiques à l'époque... pour une grande partie, aller consulter sur le CHU. Bon, donc ça faisait quand même...
Oui, donc il y avait un besoin.
Oui,
besoin
et tout au fil du temps, au niveau hospitalier, et grâce à un personnel médical et paramédical de très très bon niveau et qui persiste, on a monté un service de médecine interne, diabétologie, digne de ce nom.
Oui, et alors c'est l'époque où on construit des hôpitaux à l'extérieur, par exemple Carcassonne l'a fait, Perpignan l'avait fait bien avant, mais à Narbonne, à ce moment-là, le maire, qui était donc Hubert Mouly, lui fait un choix un peu à contrario, de maintenir en centre-ville le centre hospitalier.
Oui, alors moi j'ai connu cette époque-là parce que et le contexte décisionnaire.
Oui, c'est pour ça que j'y fais référence.
Voilà, on avait un terrain qui se situait devant l'étang de Cigent, un peu là où on retrouve la SPTT.
À mon plaisir, par là.
Et le problème était simple, c'est que beaucoup de Narbonnais souhaitaient malgré tout le maintien en centre-ville, ne serait-ce que pour voir les gens hospitalisés, les personnes âgées. Et le deuxième point, c'est que Carcassonne venait de reconstruire son hôpital, le premier, pas le second actuel.
Voilà. Faut le préciser.
Voilà, faut le préciser. Et que les caisses étaient vides pour nous.
Ah oui.
Donc il y avait deux raisons, si vous voulez, qui faisaient que... Et puis, finalement, le centre-ville convenait à beaucoup de monde. Donc Hubert Mouly a jugé bon de l'implanter, et finalement, avec le temps, et peut-être en dehors du parking, qui s'arrange quand même maintenant, finalement, c'était un bon choix.
Voilà. Mais effectivement, le parking à proximité reste quand même encore une relative faiblesse aujourd'hui.
Oui, alors, de plus en plus, les gens vont au parking Maraussan, sur le boulevard, à côté du... piste de ce skate.
Oui, qui est à quelques centaines de mètres.
Voilà, il y a une navette qui conduit, et finalement, on a quand même une satisfaction de la population qui s'est quand même nettement améliorée.
Oui, ces navettes, d'ailleurs, sont relativement, même pas relativement, sont un vrai succès, on a l'impression.
Oui, tout à fait. Et puis, ce qui a quand même amélioré les choses, c'est le transport. Vous savez qu'avant, on avait un mal de chien pour les transports des ambulances, pour qu'ils puissent se garer. Et là, maintenant, toute une partie du trottoir a été cédée par la ville pour qu'on puisse justement avoir un dépôt des patients dans de bonnes conditions, que ce soit en hospitalisation ou en consultation.
Oui, et ça forcément c'est primordial dans ce genre de service.
Ah oui, tout à fait.
Alors, docteur Courrèges, donc vous avez fait toute votre carrière ou l'essentiel à Narbonne, donc dans le secteur public.
35 ans.
On sait qu'en France, il y a deux secteurs qui fonctionnent conjointement, le secteur privé.
Oui.
À propos, alors la question, elle est personnelle. Est-ce que le terme hôpital privé vous semble convenir ?
Non, alors pas du tout. Pas du tout. D'abord,
parce que traditionnellement, quand on dit hôpital en France, c'est public, et quand on dit clinique, c'est privé.
Oui, c'est-à-dire que vous avez en fait trois niveaux. Vous avez l'hôpital régional, qui est en fait maintenant le CHU, centre hospitalier universitaire, mais qui correspond à un centre hospitalier régional. Vous avez les hôpitaux locaux, comme l'hôpital de Narbonne ou de Carcassonne, qui ont une obligation MCO, médecine chirurgie obstétrique, et puis les hôpitaux locaux, on va dire par exemple comme Lézignan-Corbière, par exemple. Le fait de mettre hôpital privé crée, je dirais, une sorte de doute. Moi, ça me gênait pas du tout qu'il y ait la polyclinique de Narbonne, qui travaille très bien. Ça me gênait absolument pas. Je vois pas l'intérêt, si ce n'est de brouiller un peu...
Les pistes, quoi.
Je vois pas l'intérêt. On l'aurait appelé clinique du Grand Narbonne, pourquoi pas. Hôpital privé, j'en vois pas l'intérêt.
Et... La polyclinique fonctionnait très bien en tant que polyclinique.
Absolument, bien sûr.
Bon, c'était un point de vocabulaire.
Voilà, tout à fait.
Cela dit, quand même, en France, les deux secteurs travaillent conjointement et dans l'ensemble, en bonne entente, si je puis.
Oui, d'une manière générale.
Avec des petites frictions, ça arrive quand même.
Il y a toujours des frictions. Il y a toujours des frictions qui sont, je dirais, un peu naturelles. Frictions parce que, bien évidemment, vous avez un côté nécessaire d'attractivité, hein, que ça soit financier ou que ça soit sur les possibilités que peuvent offrir un établissement. Le deuxième point, il peut y avoir des frictions personnelles entre praticiens, mais ça existe.
Oui, ça c'est les hommes.
Et puis de doublons, on va dire. Et il y a des doublons qui s'avèrent nécessaires et des doublons qui n'ont pas, à mon avis, d'intérêt particulier en matière de structuration. Je ne parle pas au niveau de consultation, mais au niveau de structuration. Je sais pas, il ne viendrait pas l'idée, par exemple, pour l'instant, en tout cas, l'hôpital de Narbonne, de faire de la néphrologie qui est très bien faite sur l'hôpital privé du Grand Narbonne, dont je reprends la terminologie. De même, je pense qu'il y a une consultation sur la diabétologie qui est tout à fait indiquée et nécessaire sur les cliniques. Mais c'est vrai que le développement du centre diabétologie à Narbonne, suit, je sais pas, 400 ou 500 pompes à insuline. C'est un peu différent, vous voyez. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut arriver à trouver
un équilibre
entre les services, la manière dont ils se présentent, en sachant que la qualité des soins est quand même, sur le Narbonnais, je trouve quand même extrêmement intéressant.
Oui. Et alors, juste, on revient, par exemple, à la dichotomie avec la fermeture assez récente de la maternité, qui, à un moment, se trouvait à la fois à la polyclinique, et à l'hôpital. Bon.
Oui.
Et là, l'hôpital a laissé tomber, là, en quelque sorte.
Ah, il n'a pas laissé tomber. C'est que, si vous voulez, du jour au lendemain, la polyclinique, pour des raisons, au départ, semble-t-il, de possibilités de garde, de maintien des soins, disait qu'il ne pouvait plus assurer.
De rentabilité, est-ce qu'on peut dire ça?
Et alors, moi, personnellement, je n'hésiterais pas à dire de rentabilité, tout simplement parce qu'on nous avait fait déjà la même chose au niveau perpignanais.
Mais...
On s'est trouvé, donc, confronté à cette situation en 3 mois de temps. Pour quand même préciser les choses.
Oui, ça a été brutal comme
disparition. Alors que c'était la polyclinique a toujours eu un des fondements même de la polyclinique, c'était son service de maternité qui était de très bon niveau.
Oui, bon, d'ailleurs, on avait reçu les infirmières à l'époque qui étaient elles-mêmes, qui tombaient complètement dénues.
Tout à fait. Alors, je sais très bien qu'avec le maire, Didier Mouly, avec le directeur des services, Ludovic Juge, on a été à plusieurs reprises à Montpellier, à l'Agence régionale de santé, pour un peu plaider la cause notamment du personnel, pour pouvoir... Alors bon, on les a reçus à plusieurs reprises également pour essayer de les orienter ou les aider sur le plan des postes, mais l'hôpital en lui-même n'avait pas de gros budget pour reprendre la totalité des puéricultrices, des sages-femmes, etc., et des infirmières, et c'était loin d'être évident. Et alors un certain nombre se sont reconvertis dans le libéral, d'autres ont quitté la région, enfin, etc. Mais ça a été quand même une période dure.
Assez douloureuse, oui.
Douloureuse et, à mon avis, injustifiée. Voilà. Ouais. J'hésite pas à le dire.
Oui, voilà.
Ceci dit, l'hôpital a repris.
Oui, oui.
On reprend maintenant tout.
Maintenant, la maternité, c'est à l'hôpital de Narbonne.
Tout à fait. On travaille sur un niveau de secteur 2 et avec beaucoup de courage. C'est le chef de
Pôle maintenant. Ça veut dire quoi, secteur 2 ?
Secteur 2, c'est un niveau de possibilité d'accouchement local sans aller dans des maternités plus, on va dire, huppées sur le plan technologique.
Plus spécialisées.
Plus spécialisées. Par exemple, si vous voulez faire accoucher une diabétique, par exemple, il faut un certain niveau.
Voilà, et un matériel et un personnel qualifié.
Tout à fait, en compétences, etc. Et là, mon ami... docteur Darras, qui est chef de pôle maintenant, donc qui est pédiatre, chef de pôle de pédiatrie maternité, je l'ai eu récemment au téléphone, et ils sont en train de bien travailler sur ce nouveau niveau qu'on espère et qui nous est quand même promis par l'ARS à condition de remplir un certain nombre de cases.
Alors, docteur Courrèges, pour terminer cette première partie, on va quand même aborder un petit peu la suite. On sait qu'aujourd'hui, en France, un des grands problèmes auxquels les citoyens sont confrontés, c'est ce qu'on appelle l'accès aux soins médicaux, avec une image qui est employée de temps en temps, le désert médical. Bon, autrement dit, pour beaucoup de gens, la difficulté de trouver un praticien, un médecin généraliste ou un spécialiste, ou parfois simplement, mais c'est quand même dur, des longs délais pour se faire soigner.
Tout à fait. Alors le terme désert médical, on parle des déserts médicaux, y compris en plein Paris.
Oui, l'image est à relativiser.
L'image est à relativiser. On est quand même non. C'est plutôt la difficulté effectivement d'accès aux soins. Je pense en particulier dans l'Aude, dans les parties qu'on appelle montagne et massif.
Oui, le rural
Le rural, la haute vallée de l'Aude, les Corbières, etc. Là, effectivement, on peut trouver des difficultés d'accès avec des temps de plus de 30 minutes. Mais c'est 2% seulement de l'Aude. 98%, on peut avoir accès à un médecin ou un paramédical en moins de 30 minutes. Alors, le gros problème de l'accessibilité, il est simple et compliqué en même temps. Simple, c'est la première des choses, c'est le nombre des praticiens.
Oui, voilà.
Le nombre des praticiens était idéal dans les années 70-80 par rapport à la population. Oui.
Alors, si vous permettez, Jean-Pierre Courrèges, on va marquer une première pause, mais ça, c'était pour mettre l'eau à la bouche des auditeurs, parce que, bien entendu, ce problème-là, vous vous en doutez, on le garde pour probablement une troisième partie, parce que elle tient à cœur, évidemment, à vous, j'imagine, et
bien puis sûr.
Aussi aux auditeurs et aux citoyens. Bien on sûr. Marque donc une première pause.